Et voilà, les amis, aujourd'hui on va parler. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire parce que, eh bien, je me suis énormément posé des questions sur comment on allait faire le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'on allait le détacher en plusieurs morceaux ou pas? Et à un moment donné, je me suis dit, attends, attends, tu es en train de faire une erreur. Tu es en train de préparer un cours sur c'est quoi la Kabbalah du Harizal. Mais ce n'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé l'histoire de la Kabbalah. Et le grand problème, il est qu'on est arrivé à la plaque tournante de tout l'enseignement de la Kabbalah. La semaine dernière, on avait terminé avec le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et les autres élèves qui étaient de cette génération-là, Rabbi Shlomo Alkabetz. Et en fait, c'est un sikoum. C'était un sikoum, une conclusion de tout ce qu'on pouvait avoir depuis Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'au XVIe siècle. Et arrive aujourd'hui un homme. Un homme qui va changer tout. Un homme qui va révolutionner la Torah. Un homme qui va révolutionner les concepts de la Torah et Torah ta Kabbalah. Je parle évidemment de Rabbi Yitzhak Luria à Ashkenazi. Harizal, et c'est parti, the masterpiece, c'est aujourd'hui. Alors, il faut quand même qu'on remette les choses un petit peu, qu'on resitue dans son contexte. Rabbi Yitzhak Luria à Ashkenazi, de quand est-ce qu'on parle? Alors, il naît en 1534. Et il meurt a priori en 1572. Alors, je vous laisse faire le calcul, mais enfin, faut pas être un grand mathématicien pour savoir qu'on tourne autour des 38 ans. L'Arizal, 38 ans, a révolutionné tout le judaïsme. J'en ai 37, et soyons très honnêtes, on n'y est pas. Alors les amis, c'est qui le Harizal? Bon, d'abord, le Harizal vient d'une famille très particulière puisque, eh bien, la famille Luria est une famille qui est Meyoukhesed, qui va réussir à se rattacher jusqu'à Rashi et donc jusqu'à David HaMelech, puisque la famille de Rashi Masoret que ce sont des Tzetzaïm de David HaMelech. Donc c'est déjà assez grand. Il est ashkénaze, comme son nom l'indique, hein, Rabbi Yitzhak Luria à Ashkenazi, mais il épouse, lui, une femme séfarade. Il épouse une femme séfarade, sa mère aussi, d'ailleurs, était séfarade. Enfin bon, c'est pas ça qui va vraiment nous avancer à quoi que ce soit. Le fait est que, lorsqu'il a 8 ans, son père meurt. Son père meurt et il est obligé. Enfin, sa mère est obligée d'essayer de subvenir aux besoins de la petite famille et elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à un moment donné, elle essaye de ne pas prendre de tzedaka, quoi que ce soit, mais c'est trop compliqué. Et donc, eh bien, finalement, elle décide de partir en Égypte. Elle part en Égypte. Pourquoi elle part en Égypte? Tout simplement parce que le frère de sa mère vient de la famille Francis. Une famille sfarade qui a beaucoup d'argent, eh bien, il va pourvoir aux besoins du petit Harry, du petit Rabbi Yitzhak Luria. Il va étudier là-bas, en Égypte, chez Rabbi Shlomo Ibn Zimra, chez le Radbaz. Et bon, bah, tout ça, c'est Rabbi David, David, Shlomo, David, Rabbi David Ibn Zimra, à Radbaz. Et c'est là-bas qu'il va grandir dans toute la Torah. Mais le Radbaz n'est pas connu pour son enseignement kabbalistique. C'est un Dayan, c'est un grand possèque qui connaît toute la Torah, mais c'est semble-t-il pas de lui qu'il a étudié Torah Tassod. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas quels sont ses rabbanim au niveau de Torah Tassod. D'où ça vient son enseignement de Torah Tassod? Il a étudié chez Rabbi Betzalel Ashkenazi. Est-ce que c'est de lui, en Égypte, qu'il a appris les Yesodot de Torah Tassod? Lo Barou, לא ברור בכלל. יש מסורת, comme quoi il aurait trouvé un sefer de Kabbalah, on ne sait pas lequel, et c'est là-bas qu'il aurait commencé à apprendre. Ça fait partie du mystère du Hari. On ne sait pas. On ne sait pas, une chose est sûre, il arrive à Tzfat alors qu'il a 36 ans. Et en fait, et c'est ça qui est absolument incroyable, alors c'est pas seulement le fait qu'à 38 ans, il a réussi à révolutionner le judaïsme, c'est que toute l'activité du Hari, c'est 2 ans. C'est-à-dire la révolution de la Torah portée par le Harizal, c'est durant 2 ans, c'est tout. Entre ses 36 et ses 38 ans, c'est terminus, tout le monde descend. C'est là-dedans, dans ces 2 ans, qu'il va révolutionner le judaïsme. C'est là-dedans qu'il va rencontrer Rabbi Chaim Vital, c'est là-dedans qu'il va rencontrer tous les rabbanim de Tzfat. Vous comprenez qu'on parle d'une période extrêmement courte, mais qui va avoir une influence absolument incroyable. Alors, le Hari arrive à Tzfat. Pourquoi il arrive à Tzfat? Eh bien, témoignera Rabbi Chaim Vital qu'il arrive à Tzfat parce qu'il a reçu un Gilouï Eliyahu. Alors ça, c'est un livre très intéressant d'ailleurs, dont on apprend beaucoup de choses sur le Hari, qui s'appelle Chifré à Hari. Chifré à Hari, donc les Shvarim, les, comment on dira en français, je sais pas, les Shevar, les louanges qu'on peut faire sur le Harizal, qui a été écrit par un monsieur, ouais, louange, pourquoi pas, un monsieur qui s'appelle Arav Shlomil. Arav Shlomil, pas du tout connu au bataillon, mais le Rav Shlomil, il arrive de Pologne, il a entendu parler du Hari, donc on est après la mort du Hari, évidemment, il a entendu parler du Hari, et il vient et il veut absolument étudier avec le Roug des élèves du Hari. Rabbi Chaim Vital est encore en vie, et il va essayer, il va venir à Tzfat, et tout, il va essayer, et personne ne veut l'accepter. Personne ne veut l'accepter, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, juste après la mort du Harizal, c'était encore très très secret, la Torah du Hari. Et donc, personne ne lui dit, à chaque fois qu'il demande, il dit, mais on ne voit pas de quoi tu parles, on ne sait pas de quoi tu parles, laisse tomber, on ne connaît pas. Et il va perdre tout son argent à essayer d'acheter des livres, d'acheter des trucs. Avec son dernier argent, il arrive à trouver et à acheter un otek du Zohar, et il commence à étudier, et c'est seulement à la fin de sa vie que les gens vont comprendre qu'il est sérieux et ils vont lui dévoiler tout. Et donc, juste avant de mourir, il écrit le livre Chifré à Hari, les louanges de Hari, et il raconte plein d'histoires en fait. Ce sont des témoignages qu'il a récupérés des élèves du Harizal. Donc c'est un livre qui est très intéressant au niveau historique. Il nous ramène énormément d'informations et d'histoires sur cette époque-là. Et bien, parmi ces histoires, il rapporte pourquoi le Harizal est arrivé à Tzfat et d'où ça lui vient. Et bien, il raconte qu'il a eu un Gilouï Eliyahu qui lui a dit de venir à Tzfat et de s'occuper de Rabbi Chaim Vital. Alors, Rabbi Chaim Vital est beaucoup plus vieux que le Hari. C'est-à-dire que Rabbi Chaim Vital, le Hari, quand il le rencontre, il a 36 ans, Rabbi Chaim Vital a déjà 60 ans. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui aurait pu être le maître de l'autre, mais qui finalement va être l'élève. Rabbi Chaim Vital, au moment où le Hari arrive à Tzfat, il est déjà méconnu. Et il est déjà Talmid Chacham Banigle, mais Talmid Chacham Banistar, puisqu'il a étudié chez le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. OK? Et donc, Eliyahu Hanavi vient dire au Hari, il faut que tu rattaches à toi, Rabbi Chaim, c'est lui qui va suivre ta voie. C'est lui qui va te continuer. Donc, il faut que tu lui transmettes toute ta Torah et tu dois t'occuper de sa neshama. C'est une neshama extraordinaire, Rabbi Chaim Vital. Yalla. D'ailleurs, entre parenthèses, Rabbi Chaim Vital ne s'appelle pas Rabbi Chaim Vital. Mais ça, on y reviendra quand on parlera de lui. Mais Rabbi Chaim Vital, ce n'est pas son nom de famille, Vital. Son nom de famille, si je ne me trompe pas, enfin, c'était le nom d'où il venait. Je ne me rappelle plus exactement, il faut que je revérifie. Mais ce n'était pas son nom de famille. Rabbi Chaim Vital, ça veut dire quoi, Vital? Ça veut dire Chaim. La vie. Rabbi Chaim Vital. C'était exactement le style de toute l'Europe et de l'Europe de l'Est, que quand tu donnais un nom, tu donnais le même nom en hébreu et en langue goy, c'était la même traduction. C'est comme tu as des gens énormément qui s'appellent Dov Ber, ou alors Zev Wolf, ou alors Calabris, Calabris, Nachon, Calabris, exactement. Calabre, Nachon, autant pour moi, merci beaucoup. Donc tous ces noms-là, Menachem Mendel, tous ces noms-là, c'est simplement le nom en hébreu et sa traduction en langue de là où c'est parlé. Et donc, en l'occurrence, eh ben, on a Rabbi Chaim Vital Lavi. Bon, en tout cas, eh bien, il va rapprocher Rabbi Chaim. Rabbi Chaim Vital dira dans Etzraïm, je cite l'introduction de Etzraïm, Lo haya mi sheyasik chokhma zo al amitat kamohu. כי היה יודע במשנה ותלמוד ואגדות ומדרשות ועל כל דבר ודבר כמה פנים בפרדס, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ושיחות דקלים ואילנות ועשבים, בסוד כי אבן מקיר תזעק. תאר כרבי חיים ויטל נודי, לא ארי, יקונסתו. יקונסתו, שקטדיב. Il connaissait tout le niglé et il pouvait te citer n'importe quoi. Et puis, il savait aussi parler de langage des animaux, des fleurs, des pierres. Un col, il y a un col. Donc, le Harizal, en 2 ans, il va avoir un impact absolument phénoménal, phénoménal sur le judaïsme. Mais avant de parler de l'impact et de son enseignement, essayons de comprendre 2 secondes qui était le bonhomme. Eh bien, le bonhomme, d'après lui-même, il était Machiav Ben Yosef. Oui, messieurs, dames. Machiav Ben Yosef. Alors, calmez-vous, ce n'est pas le seul. À la différence de Machiav Ben David, qui est censé être un bonhomme. Non, non, le Hari. Le Hari, d'après... alors c'est Rabbi Chaim Vital qui l'écrit parce que c'est lui qui va écrire la majorité de ce qu'on sait sur le Hari, mais et c'est marqué chez Rabbi Chaim Vital et chez ce fameux Rav Shlumil dont on a parlé tout à l'heure, chiffré à Hari, que le Hari a dit de lui qu'il était Mashiach Ben Yosef. Mashiach Ben Yosef, c'est pas un bonhomme, il y a plusieurs personnes qui portaient en eux le potentiel de Mashiach Ben Yosef, comme par exemple Yitzhak Avinu. Il lui aussi est appelé par le Hari Mashiach Ben Yosef. Donc, Harizal Mashiach Ben Yosef. Dans le livre chiffré à Hari, on nous raconte qu'un jour, puisque c'est le Hari qui va lancer cette mode, vous connaissez cette mode, de commencer la tefila de Shabbat par des mizmorim. On avait dit avec Rabbi Shlomo Alkabetz qui a mis en place les Hadodi, mais Rabbi Yitzhak Luria, lui, il lance une nouvelle mode. Pas seulement de prendre les mizmorim de Kabbalah de Shabbat, mais que la Kabbalah de Shabbat, il faut la faire, Behemet, que de le Kabbel est à Shabbat. Donc, il faut le faire à l'extérieur du Troum Shabbat. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui va lancer une mode que le début de la tefila de Shabbat se fait à l'extérieur de la ville. Là où tu vas accueillir le Shabbat. Et ensuite, tu vas revenir avec le Shabbat dans la synagogue. Un jour, juste avant de commencer, ce qui est marqué dans Chiffré à Hari, eh bien, on nous raconte que le Hari dit à ses élèves « Mada Atrem, on aille faire le Shabbat à Jérusalem. » Je te parle de ça, on est 5 minutes avant Shabbat. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va à Jérusalem. À Tzfat, évidemment. Et il raconte qu'il y a des élèves qui ont dit « Ok ». Il y a des élèves qui ont dit « Alors, ok, mais il faut d'abord qu'on aille prévenir nos femmes. » Parce qu'on risque de ne pas être à l'heure pour le repas, si on part à Jéru. Et finalement, il y a eu débat, ils n'ont pas été. Et le Hari, il a dit, si vous aviez accepté tout de suite d'aller à Jérusalem, alors, eh bien, la Géoula aurait survenu tout de suite, Je ne sais pas ce que ça veut dire ce genre d'histoire, hein, mais ça veut dire que toute la Torah de Rabbi Chaim, du Arizal, est tournée vers une seule chose, Jérusalem. Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, Géoula, toute la Torah du Hari, c'est Géoula. Alors, je veux bien qu'on parle un petit peu de Torato chez la Hari, mais on est toujours sur sa personnalité pour l'instant. Le Arizal, comme tous les rabbins, avaient un métier. Quel était le métier du Arizal, à votre avis? Un bon métier pour le Hari, à votre avis? Vous avez le droit de tenter un truc. Alors soit vous écrivez, soit vous allumez votre micro. Je vous laisse tenter un truc pour le métier du Hari. Alors, soit vous savez, soit vous tentez. Pas exactement épicier, parce qu'ils ne vendaient qu'un seul truc. Non, pas chaussures. Non, pas chaussures. Il vendait, il était mocher pilpelim. Le pilpoul. Il était vendeur de pilpelim, d'épices et de poivres. Pas des pilpelim, les poivrons. C'est-à-dire ? Donc, il était vendeur d'épices et de poivres. C'est pas mal. Arizal. T'imagines ce que c'est un repas préparé avec les épices du Arizal. C'est autre chose. C'est-à-dire, j'en profite pour dire que le Hari est ashkénaze, mais comme il respecte la halakha, eh bien, il est devenu séfarade. Pourquoi je dis ça? Parce que d'après la halakha, quand tu arrives dans une communauté où tout le monde est séfarade, eh bien, tu prends les minagim des séfaradim. Or, que ce soit quand il était en Égypte ou quand il arrivait à Tzfat, ben, ils étaient tous séfarades. Donc, ben, le Hari, il se comportait comme un séfarade. Et donc, lorsqu'il va faire son commentaire de la Tfila, son pérouche à Tfila, eh bien, il va le faire selon le Noussar séfarade. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il pense que c'est le meilleur. C'est juste que, ben, une fois que tu es chez les Sfaradim, tu te comportes comme un Sfarad. Tu ne peux pas être le seul qui ne fait pas comme les autres. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que, en tant que guide, très souvent j'emmène des gens à Tzfat, on les emmène dans la synagogue du Hari. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas, c'est magnifique. Le seul problème, c'est que le Hari n'a jamais prié dans cette synagogue. Parce que la synagogue que tout le monde visitait, et que moi aussi je fais visiter, c'est une synagogue qui d'abord, un, date de plus tard, et deux, alors certes, qui a été fait par les Talmidim du Hari, pas de problème, mais c'était la synagogue ashkénaze. Or, oui, il y en a deux. Or, mais la synagogue que tout le monde visite, c'est la ashkénaze. Or, le Hari, il priait en mode séfarade. Donc ce n'est pas la bonne. Mais l'autre, elle est moins prestigieuse à regarder. Mala Asot. Quoi qu'il en soit, donc là, Arizal va bosser pendant 2 ans. On va même nous raconter, dans ce même livre chiffré à Hari, que Mishamaim, on lui a donné la permission de dévoiler les secrets à Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim Vital lui-même écrit que lui, il n'a pas envie de dévoiler les secrets comme son maître, parce qu'à cause de ça, il est mort jeune. Caché. Caché meurt d'Atke Descartes, qu'un jour, il a envie, il est en train d'enseigner à ses élèves, il y a un sujet sur lequel il ne veut pas parler, et ses élèves lui mettent la pression pour que, allez, vas-y, dis-nous, et finalement, il balance, et au moment où il donne les secrets, il voit un corbeau passer au-dessus de sa tête, et il comprend que son fils meurt à ce moment-là. à cause des secrets qu'il dévoile. C'est caché meod. C'est caché meod. Il y a un prix à payer quand tu dévoiles les secrets. C'est meod caché. Benenu et off record, hein, évidemment, il y a quelques années de cela, lorsqu'il y a eu l'assassinat du fils du Rav Cherki, je lui ai dit que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette histoire que lui-même nous avait racontée, que le Hari dévoilait les secrets et qu'il a vu un corbeau passer au-dessus de sa tête et il a compris que son fils était mort. Et j'ai dit, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui vous arrive, Arav, et de repenser à cette histoire que vous nous avez racontée. Il n'a pas répondu, mais bon, il y a un prix à payer à dévoiler les secrets. Alors, peut-être que les Chachmé à Kabbalah, ils ne doivent pas parler. Peut-être qu'ils doivent garder ça pour eux. Et tu vois, Ishélo, parce que à la question, est-ce que ça vaut le coup d'être idéaliste? Eh bien, l'idéaliste ne se pose pas la question. C'est-à-dire, en tout cas, Ayulo Odieladim, Lahari, il avait un fils, une fille, Veyesh Omrim, une deuxième fille. Ok, mais ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair, en tout cas, il n'y a pas eu de Tzaïm, on ne connaît pas du moins ses descendants directs. Quoi qu'il en soit, quelle va être la révolution haricienne? Quelle est la révolution du Hari? Alors, je sais que c'est un cours d'histoire, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre la suite, c'est-à-dire tous les enseignements de ce qu'on va appeler gouré à Hari, les élèves du Harizal, on ne peut pas comprendre quel va être leur cheminement si on ne comprend pas quels sont les points centraux de la Torah du Hari. Donc, je vais me permettre de faire quelque chose aujourd'hui qu'on ne fait pas d'habitude. Voilà, ça fait 25 minutes qu'on est sur l'histoire du Hari. Il meurt donc à 38 ans à Tzfat, semble-t-il, en 1572. Il est enterré dans le vieux cimetière de Tzfat, évidemment, avec tous les autres. C'est-à-dire qu'il est enterré à côté du Ramak, à côté du Mabit, à côté de Rabbi Shlomo Alkabetz, pas très loin de Rabbi Yosef Karo. C'est-à-dire que toute la bande qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, bah évidemment que le Hari, il en fait partie. Je suis toujours émerveillé de voir l'humilité des rabbins de l'époque, d'être capable d'accepter un petit jeune de 36 ans, 38 ans, comme étant leur maître. C'est quelque chose qui est assez étonnant, voilà, moi je trouve ça magnifique, que ce qui est important, ce n'est pas le kavod, ce n'est pas l'ego, mais ce qui est important, c'est la Torah. C'est-à-dire, ça nous manque peut-être aujourd'hui dans beaucoup, beaucoup de domaines, et je sais que certaines personnes seront d'accord avec moi là-dessus. Donc, je suis obligé, pour qu'on comprenne la suite, eh bien, de sortir un tout petit peu de l'histoire pour parler de c'est quoi le contenu de manière générale de Torah Tahari. Et je dis tout de suite, c'est pas possible ce que je vais faire. Betzalel Gam. Betzalel Gam quoi? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu voulais dire quand tu dis Betzalel Gam. Donc si tu peux développer. Betzalel, Tsahir, Meod. Betzalel, tu parles de Betzalel, Ben Uri, Ben Hur, le Matei Yehuda. C'est de ça que tu parles? De Betzalel, de celui qui a construit le Mishkan? Ou de Rabbi Betzalel Ashkenazi, le Rav du Hari? C'est pour ça que je ne sais pas comment réagir par rapport à ce que tu dis. Ken, chez la Mishkan. Alors, oui, Betzalel, il est jeune, mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que Betzalel, on n'a pas reconnu le fait qu'il était un Talmid Chacham de folie. Il l'était, mais ce n'était pas ça le truc. Betzalel, c'était le meilleur sculpteur, constructeur, celui qui a לעשות בכל מחשבת, לחשוב מחשבת, pour ce qui est de zahav, הכסף ונחושת. C'est-à-dire que, concrètement, c'était un mec, il bossait mieux que les autres. Donc c'est plus facile, je ne dis pas qu'il ne faut pas de l'humilité, mais c'est plus facile de reconnaître le talent concret qu'on peut voir de ses yeux de quelqu'un, et moi je n'ai pas. Tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup la musique, je ne sais pas jouer vraiment d'un instrument, donc quand je revois quelqu'un qui est très jeune, qui joue de la guitare ou du piano de manière magnifique, bah, je ne vais pas commencer à dire « Oh non, mais il est petit jeune, ça ne veut rien dire. » Je reconnais qu'il joue mieux que moi. Ce n'est pas shoot, quoi. Bekitsour, quelle est la Torah du Hari? Donc, je prends des gants. Vous remarquez, j'essaye de prendre énormément de gants parce que je ne me sens pas légitime pour vous dire ce que je vais vous dire maintenant. Le Rav Ben Arosh, le Rav Cherki serait tellement plus légitime que moi pour dire ça. Et d'ailleurs, il est très possible que en fait, j'arrive pas à expliquer les choses et que je dise des bêtises. Donc, si ce que je dis n'est pas clair, je vous en prie, demandez au Rav Cherki ou au Rav Ben Arosh aujourd'hui ou à un autre moment de vous réexpliquer ça. Et si jamais j'ai dit des énormités et des bêtises, ce qui est tout à fait probable, n'oubliez pas de me le dire. Mais de ce que je comprends, bon, évidemment, on n'a pas le droit de dire qu'on est mekoubal ou qu'on étudie la Kabbalah. En général, toutes les personnes qui se font passer pour des mekoubalim, c'est des charlatans. Donc, en général, quelqu'un qui est vraiment un mekoubal, eh ben, ce n'est pas quelque chose que tu dis, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je vais essayer simplement de passer en revue de manière très, 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 prendre de la hauteur sur les grands concepts qui vont être la Torah du Hari. Il y a trois grands points qui forment la pensée du Harizal. Et ces trois grands points s'appellent Atzimtzum, Achalal Apanouy, Veatikoun. Alors, de quoi on parle? Atzimtzum. Le Tzimtzum, on va pas tout expliquer. Mais on va dire tout simplement que ça part d'un postulat de départ qui est de dire la présence divine ne laisse pas la place à la création. Que lorsque Akadosh Baruch Hu Memale Kol Almin, lorsque Dieu remplit le monde, ben il n'y a pas de place pour rien du tout. C'est, si je peux me permettre, ce qu'on a lu hier dans la Torah, que lorsque Kvod Hashem Malé est à Mishkan, Moshe, il ne peut pas rentrer. Donc, le postulat de départ dit que Yesh Ribono Shelolam, donc il y a de la place pour rien. Pour pouvoir permettre la création, eh bien, Kadosh Baruch Hu Metzamtzem et Atzmo. Ok ? Il fait de la place. C'est ce qu'on va voir dans le premier verset de la Torah, lorsqu'il y a marqué « Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz ». Bara veut dire « mis à l'extérieur ». Ok, bar en araméen, ça veut dire « bachout ». Bra en arabe, ça veut dire « dehors ». Bara, c'est « mis à l'extérieur ». Alors oui, vous allez me dire, Bereshit bara Elohim, ça veut dire aussi qu'il a créé. Nachon, parce que en français, le mot exister veut dire être dehors. Ex ist, exit, ça veut dire être dehors. Ex dehors, ist être. Donc l'existence, c'est être dehors. Dehors de quoi? Eh bien, du divin. Donc le Tzimtzum, c'est prendre comme postulat de départ que Akadosh Baruch Hu prend toute la place et que donc il ne peut pas avoir de place au monde, il faut lui faire de la place. D'accord? Seulement, maintenant que Dieu a fait de la place, il y a ce qu'on appelle Achalal Apanouy. Il y a un pas un endroit. Vous comprenez qu'on ne parle pas d'espace, hein, on parle, c'est complètement métaphysique. Il y a un endroit qui épanouit Mea Elot. D'accord ? Et donc, dans cet endroit qui est vidé de la présence divine, eh bien, Akadosh Baruch Hu va mettre sa lumière, son dévoilement. Le problème, c'est que le dévoilement, eh bien, il vient d'Akadosh Baruch Hu, il est Ensofi. Or, celui qui va recevoir la lumière, c'est la création. Or, cette création, elle a les ustensiles qu'elle a pour recevoir la lumière. D'accord ? Comment est-ce qu'on appelle une lumière en hébreu ? Or, il y a plusieurs façons de se dévoiler pour Akadosh Baruch Hu, donc il y a plusieurs sortes de lumière, ce qu'on va appeler Orot, et il y a plusieurs ustensiles qui peuvent recevoir ces lumières. Ces ustensiles s'appellent Kelim. Ça pourrait être un bon nom pour une association. Il y a des lumières et des ustensiles, des Orot ve Kelim. Et donc, à un moment donné, puisque la lumière, elle vient de l'infini, et qu'elle arrive dans un ustensile fini, eh bien, l'ustensile ne peut pas contenir cette lumière et se brise. C'est ce qu'on appelle Shvirat Akelim. C'est le deuxième grand concept du Hari, Chalal HaPanoui, qui va forcément amener à Shvirat Akelim, le fait que les ustensiles se sont brisés. Et donc, ça nous amène au troisième grand point de Torato Shel Ha'ari, qui va être, bah, puisque les ustensiles ont été brisés, il va falloir maintenant, eh bien, les corriger, enfin les réparer. Et donc, c'est le troisième grand pôle qui s'appelle Atikoun. OK ? Donc, d'après le Ha'ari, nous sommes maintenant dans une réalité où nous devons réparer le monde. OK ? Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que, bah, suite au Chalal HaPanoui et au Shvirat HaKelim, eh bien, il y a différentes sortes de Neshamot. Il y a différentes sortes de personnages qui vont ben, être dans ce monde. Il y a des gens qui, alors que nous avons tous comme rôle de l'étaken, évidemment, mais il y a des gens qui vont avoir un problème qui est dû à la brisure de ces kélim. C'est ce qu'on appelle, dans le langage de Rabbi Nachman de Breslav, apikoros shel shvirat kélim, c'est-à-dire quelqu'un qui est en milchama avec la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression que la Torah et le monde, ça ne marche pas ensemble. Et donc, face à ces gens-là, nous dit la Mishnah, « Dam ashetashiv la apikoros ». Tarlilmod arbe Torah, pour lui expliquer que non, ce n'est pas contradictoire. Que la lumière et le kli peuvent coexister. Mais il y a des gens qui ont un bug qui provient de Achala la panouille. Du vide laissé par la création au niveau de la présence divine. Eh bien, c'est apikorsim shel achalal apanoui. On les retrouve par exemple dans la philosophie de l'absurde, comme un mec comme Sartre ou comme Kierkegaard. Eh bien, ces gens-là, atshuva zehashtika. Puisqu'ils parlent en disant qu'il n'y a absolument aucun intérêt à Shum Davar, qu'il n'y a pas de valeur Kloum, la réponse, c'est le silence. Alzen Ema Shtok Kachala Bamachashava Lefanaï. Exactement, Aletz, c'est comme ça qu'il est appelé dans le livre de Tehilim. C'est-à-dire, pas le Letzan, pas le Kloum, Aletz. C'est-à-dire celui qui dit « il n'y a pas d'importance à rien du tout ». Donc, trois grands pôles, Atzimtzum, Chalal HaPanoui, Shvirat HaKelim. Alors, Yuval Noah Harari, il est, alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Yuval Noah Harari dans ce forum, c'est un Israélien, je ne sais pas s'il est professeur ou docteur d'université, machin, il a écrit plusieurs livres, et effectivement, pour lui, le monde n'a pas de sens, et au contraire, il faut essayer de comprendre quelle est l'absurdité de la condition humaine. Nahon, il est parmi ces gens qui, et ce n'est pas la peine d'essayer de donner des réponses. Ce n'est pas la peine d'essayer de donner des réponses, parce qu'il a déjà une idéologie, en fait, il a tiré la flèche, et là où la flèche est arrivée, il a fait une cible autour. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas parler de manière rationnelle. Donc, c'est-à-dire, il y a des fois où il faut savoir se taire. D'accord, c'est-à-dire. Quoi qu'il en soit, donc on a dit, nous avons trois grands pôles, Atzimtzum, Chalal HaPanoui, Shvirat HaKelim, et Atikun. Mais le problème, c'est que pour les Taken, alors tu as besoin eh bien, de savoir dans notre monde qui a besoin d'être corrigé. Chercher l'absurdité n'est pas déjà se poser la bonne question sur l'ouverture. Chercher l'absurdité n'est-ce pas déjà se poser la bonne question et l'ouverture. J'ai pas compris la question. J'ai pas compris la question. Je vous propose de la garder sur le moment où on ouvre les micros. Comme ça, vous nous expliquez la question comme il faut. Quoi qu'il en soit, ok, on est dans le monde du tikkun, mais pour pouvoir les taken, alors on a besoin, eh bien, de savoir dans ce monde quels sont les outils qui me permettent de les taken. Eh bien, ces outils, c'est ce qu'on appelle dans la Torah du Hari les sfirot. Mazeh sfirot. Eh bien, les sphirot, c'est comment est-ce que j'arrive à faire le pont entre ce monde et la dimension de l'infini. Puisque je suis dans ce monde, il a besoin d'être corrigé, j'ai besoin d'une échelle qui me permet de faire le pont entre l'un et l'autre. Et donc, les sphirot vont partir du Keter pour arriver jusqu'en bas au Malchut. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est que toutes ces sphirot, donc Chochma, Bina, Vedaat, les sphirot Elyonot, qui sont gérées par le Keter, et ensuite Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, eh bien, nous avons un grand problème. Est-ce qu'elles sont des dimensions qui se suivent avec une ligne ? C'est une échelle, une ligne droite qui va mimala lemata. Ou alors, est-ce que ce sont des cercles qui vont du plus grand au plus petit, des cercles concentriques qui vont du Ensof jusqu'au plus petit qui intègrent notre monde dedans à Malchut. Vient le Harizal et nous dit, il n'y a pas de stira entre le yosher, la ligne droite, et a igulim. Ha yosher, c'est la ligne droite, c'est le monde de la morale, de la droiture, c'est le monde de l'idéal, alors que le cercle, c'est le monde de la nature. C'est le monde de notre réalité. Alors là, Meira, ça doit être de la Kabbalah. Parce que ce que tu as écrit, c'est un langage qui m'échappe complètement. Tikkun, Chalal, Panoui, Tikkun, Kelim, Shvurim. Et alors, si vous vous mettez aussi, vous, à parler en Kabbalah, j'ai besoin d'un décodeur. J'ai besoin d'un décodeur. Vous dites des choses, je n'arrive pas, c'est ma faute, hein, c'est moi qui ne suis pas au niveau. Mais j'arrive pas à comprendre. Non, mais maintenant tu me parles en langage des signes, Félicia, j'arriverai pas. Donc, ou tu ouvres ton micro et tu me dis ce que tu as à dire et je comprends, ou tu attends encore 7 minutes et tu ouvres ton micro. C'est trop compliqué. Et vous êtes trop élevé pour moi. Je n'y arrive pas. Je suis désolé. C'est Katonti. Bekitsour, nous dit le Hari, il n'y a pas ma targum shel sfira betzarfatit. Une excellente question. Quelle est la traduction du mot sfira betzarfatit? À tort, on le traduit par sphère. Mais ce n'est pas une sphère. OK? Dans les livres de Kabbalah pour que tu achètes à la Makolet, on te représente les sphirotes par des sphères. Mais Zélozé. OK? Quand on parle du monde du Yosher et des Igoulim, ce n'est pas des représentations graphiques. D'accord? Donc la sphira, c'est Machani Sofer. OK? C'est ce que je peux compter dedans. Donc, quoi qu'il en soit, nous dit Larry, il n'y a pas de styra, il n'y a pas de contradiction entre la ligne droite, le monde de l'idéal, et le igoulim, la nature. Tout le rôle du tikkun, c'est d'arriver à faire correspondre yosher ve igoulim. Les gens qui suivent l'enseignement de la Kabbalah, par exemple, eh bien, lorsqu'ils se marient, la bague de fiançailles, tabat, irousin, qu'on reçoit sous la choupa, Areat Mekoudeshet Li, tout ça, eh bien, elle est ronde à l'intérieur et carrée à l'extérieur. Olam ha-yosher ve-igulim, c'est mon fameux chocolat de tout à l'heure. C'est là. D'ailleurs, entre parenthèses, eh bien, en mathématiques, la relation entre la ligne droite et la sphère et le cercle s'appelle pi. Ce qui fait le lien entre, qui arrive à trouver une relation entre la ligne droite, le diamètre ou le rayon, et le périmètre, la circonférence, eh bien c'est pi. Or, pi, c'est 3,14 tchouptchik, 3,14, 159. Or, dans notre univers, le monde de la neshama, de l'idéal, et le monde de la nature se rejoignent au moment de la naissance du fils de David Alta. Au moment de la naissance d'un bébé, eh bien, on est content. Pourquoi on est content? La neshama du bébé existait déjà depuis la création du monde. Or, le corps du bébé, il était déjà présent dans la dernière échographie. Alors, pourquoi on est très content? Parce qu'il y a union entre Neshama et Gouf. Et on n'oubliera pas que le dévoilement divin, parce que là aussi, on ne va pas avoir le temps, mais Shemot HaEloah, c'est aussi un point central dans la Torah du Hari, les noms divins. Mais en tout cas, le dévoilement de Dieu, lorsqu'il va promettre des enfants, et donc qu'il promet l'éternité dans ce monde, eh bien, c'est Shaddai. Et Shaddai, Begematria, c'est 3,14 Tchouptchik. Donc, il y a quelque chose qui est assez fort à ce niveau-là. Et une dernière chose que nous devons comprendre dans la Torah du Hari, au-delà des Sfirot, Yosher Veigulim, il y a ce qu'on appelle les Partsoufim. Les Partsoufim, comment ça les Partsoufim? Eh bien oui, parce qu'on a dit les Sfirot, ils peuvent être soit en mode ligne droite, soit en mode cercle, mais il y a aussi les sphirotes comme étant Goufa Adam, comme étant l'homme, avec Chochma Bina Vedat qui sont la partsouf. On va avoir Chesed ou Gvura qui sont le bras droit et le bras gauche, Tiferet, le tronc, le cœur, le corps, et puis après on va avoir Anetzar ve'ayesod, Anetzar ve'ahod, qui sont les jambes gauche et droite, droite et gauche, et on va avoir le yesod qui est Ezor ha-Revia, l'endroit des parties intimes. Et tout ça permet d'arriver aux pieds qui sont à Malchut, qui va nous permettre de nous poser dans ce monde. Et donc, les partsoufim sont ce qu'on appelle les shalosh sfirot elyonot, qui vont nous permettre de comprendre le dévoilement divin. Bon, c'est tout un programme. Vous aurez compris que la Torah du Hari, eh bien, va complètement révolutionner l'histoire de l'enseignement de la Kabbalah, parce que il y a tout d'un coup un but. Le but n'est pas seulement de comprendre le dévoilement divin, mais de corriger dans ce monde ce qu'il y a à corriger. Ça donne la Kabbalah du Hari, et la première qui va donner, c'est ça la grande révolution, qui va donner un rôle concret à celui qui l'étudie. Le Hari n'a pratiquement rien écrit de sa main. Tous ses écrits, c'est en fait Rabbi Chaim Vital qui va mettre sur papier. Mais il y a quand même une petite chose, et on ne peut pas ne pas en parler. Il écrit un petit livre de sa main qui s'appelle Tzadik Yesod Olam. Tzadik Yesod Olam, c'est un petit commentaire sur la Megillah de Ruth. OK ? Et dans ce petit commentaire de la Megillah de Ruth, il y a un verset qui est fantastique. Vous savez, Ruth vient dormir dans le champ de Boaz, et Boaz la découvre, et à ce moment-là, elle a peur, est-ce qu'il va la chasser ? Et Boaz lui dit, « Lini alayla, dors ici cette nuit, ve'aya baboker, et lorsqu'arrivera le matin, en fait, la question, c'est de savoir avec qui elle va se marier, Ruth. Donc, Boaz, il lui dit, je t'emmènerai chez ton plus proche parent, le plus proche parent de Elimelech, qui était le père de ton mari défunt. Im yigaler tov, yigal. C'est-à-dire que si le mec, il accepte de ligol otar, c'est-à-dire de se marier avec toi, astov, yigal. Im lo yachpots le gaoler, et s'il ne veut pas se marier avec toi, Galtir anochi hayashem. Moi, je te promets, je me marie avec toi. Ça, c'est le sens littéral du verset. Dis le Hari. Lini alayla ze agalut. Dors ici la nuit, c'est la galut. Vaya baboker. La geoula. Im galer tov. Igal. Si la geoula arrive par l'intermédiaire de tov, Torah ou Maasim Tovim, Azigal, Yegeoula. Veim lo yachpots le gaoler. Mais si la Geoula, elle n'arrive pas par Tov ou Maasim Tovim, de toute façon, Dieu, il emmène la Geoula. Il arrive, Gealtich Anochi. Anochi, c'est Anochi Hashem Elohecha. C'est-à-dire, j'emmène moi, Dieu, la Geoula, quoi qu'il arrive. Hay Hashem. Hay Hashem, nous dit le Harizal, je cite, Chai romez lemidat yesod. Vehashem yutkevavke romez lemidat atiferet. Veze remez gadol leinyan yom hageula. Aval lo nitan lichtov oto. Vous avez compris? Nous a dit Chai Hashem, c'est le secret de quand va arriver la Geoula. Chai, c'est Sod, Yesod. Hashem, Sod, Tiferet. Et c'est ça le secret de quand ça va être la Geoula. Oui, en fait, c'est très clair aujourd'hui. Vous savez, dans la Sfirat HaOmer, eh bien, sous l'impulsion du Harizal, on va donner à 7 semaines qui séparent Pessar de Shavuot, et bien chaque semaine une sphira. Et dans chaque semaine, il y a 7 jours, donc dans chaque semaine, il y a aussi les 7 sphirot. Et bien nous dit le Harizal, la Geoula, Zebe Yesod, Shebati Feret, Chai Hashem. Et bien Yesod, Shebati Feret, c'est le 5 Iyar. Et donc le Harizal, il y a quelque chose comme presque 500 ans, nous dit, la Géoula, ce sera le 5 du mois de Iyar. Il n'a pas dit l'année. Pour avoir l'année, il faudra attendre le Gaon de Vilna 200 ans plus tard. Mais ça, on n'y est pas encore. On y arrivera bientôt. Voilà. Je m'arrête là. J'espère. Attendez, maintenant, vous pouvez poser toutes vos questions. Juste avant de vous donner la parole, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. J'espère que j'ai été clair et que cette clarté, elle est vraie. Voilà, Anika Tonti, Anilo de Akloum. Donc, j'ai essayé de vous dire ce que je comprends. Voilà, je prends des pincettes parce que c'est. Bémet, je sais que vous avez des vrais Chachmé à Emet juste après, donc voilà.
Ara, première question de Félicia. Félicia, allumez votre micro.
Boker Tov, Arav. Sheila Shali, Dibat, vous avez parlé du Tikkun, Slicha. Tikkun, est-ce que le Tikkun, il passe par aussi dans le Halal Apanoui, mais aussi dans le Shvirat HaKilim?
Encore une fois, ce n'est pas il passe dedans. Le Halal Apanoui amène Shvirat HaKilim. Et Shvirat HaKelim amène le fait qu'il faut réparer ce qui a été cassé.
Ok.
D'accord ?
Ok.
Ok.
Toda.
Alors, question de Gabriel Lévy.
Est-ce que vous pouvez reprendre le Mahalar Chai Hashem, c'est écrit dans le commentaire, c'est ça, sur la Megillat Ruth.
Le pasouk qui dit Galti Chanochi Chai Hashem. Ça, c'est le pasouk dans la Megillat.
D'accord.
D'accord ? Nous dit le Hari. Donc, on parle de Géoula. Galti Hanochi, donc Dieu, il prend sur lui de faire la Géoula. Et il te dit, Chai, ça veut, c'est en allusion Midat Yesod. Hachem, c'est Midat Tiferet. Donc, il te dit, la Géoula, c'est Yesod Sheba Tiferet. Et aujourd'hui, on sait que Yesod Sheba Tiferet, ça correspond au jour du 5 Iyar.
Incroyable.
Oui, je suis d'accord.
Rafi Zakari. Question de Zacharie.
Non, je voulais savoir ce que vous avez parlé au début, Rav, sur le fait qu'on n'a pas le droit de dire qu'on étudie la Kabbalah ou qu'on est Mekoubal. Est-ce que étudier la Kabbalah ou les textes de Kabbalah, c'est être Mekoubal, c'est synonyme?
Non, étudier la Kabbalah, c'est étudier la Kabbalah. Être Mekoubal, comme son nom l'indique, c'est être Mekoubal, aliedemi, aliedé arabanim shelcha. C'est-à-dire, donc en fait, tu n'es Mekoubal que lorsque ceux qui t'ont enseigné, ils sont Mekablimotra. C'est-à-dire, donc, c'est pas quelque chose qui doit être. Pardon ?
Ou que les tfilas.
Oui, mais c'est autodavar. C'est autodavar. Pour Rabbi Hanina Ben Dosa, c'était Mekoublani, que si ma tfila elle est reçue, alors c'est que c'est bon. C'est-à-dire, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui vient d'au-dessus de toi. C'est pas un truc que tu mets sur ta carte de visite.
Alors, il y a une question dans le chat de Dan. Comment répartons les kélim?
Comment répartons les kélim? Eh bien, tout le tikkun, tout le olam à tikkun, c'est arriver à réinsuffler la présence divine dans ce monde. Tu le fais par plusieurs intermédiaires. La tfila, c'en est un. Le limud Torah, c'en est un autre. Et la construction de ce monde, c'en est un troisième.
Alors, question de Monsieur Ben Saïd.
Oui, bonjour, Richard, ça suffira. Alors, d'abord, l'explication de la question écrite, à savoir, est-ce que l'absurdité n'est pas le début, justement, du questionnement? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas, justement, l'ouverture à la question, c'est-à-dire ma?
J'ai compris.
D'une si part, c'est juste... deuxième, excusez-moi, oui. Je n'ai pas terminé. Oui. Deuxièmement, il y a encore un philosophe de l'absurde un petit peu différent qu'on pourrait citer, c'est Albert Camus.
Oui, tout à fait.
Qui dans le mythe de Sisyphe, termine la phrase et on doit penser, à peu près, on doit espérer ou penser que Sisyphe est heureux. Autrement dit, il y a au fond de la noirceur, au fond du désespoir qu'engendre l'absurde, il peut y avoir une lueur, justement, de joie, d'espoir, de bonheur. Et c'est la question, encore une fois. Et c'est la Alors, question qu'on trouve dans la création.
Bien fait. À mon avis, c'est la même question. Les deux parties de votre question sont reliées. Je pense qu'en vérité, le problème, il est le suivant. Lorsque vous avez quelqu'un qui disent que vous, vous dites que c'est le bien, moi je pense que c'est le mal, et je pense que ce que vous dites c'est le mal, c'est le bien. Nous sommes opposés dans nos valeurs. Alors, ce n'est pas absurde, nous avons une compréhension différente des valeurs, et donc on peut débattre. Et j'entends ton point de vue, t'entends mon point de vue, et soit j'arrive à te convaincre, soit tu arrives à me convaincre. Mais quelqu'un qui vient dire, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de système de valeur. Sisyphe ne peut pas être heureux. Logiquement parlant, si on regarde le mythe de Sisyphe, il ne peut pas être heureux. Mais si tu viens et tu dis, mais si, peut-être qu'il est heureux en fait. Eh bien en fait, tu viens tronquer le débat. Il n'y a plus de discussion possible. Et donc, comme il n'y a plus de... Parce qu'en fait, je ne peux pas répondre à peut-être qu'il est heureux. Non, il n'est pas heureux, ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il a été construit, ce mythe, justement pour apprendre ce que c'était que faire face au désespoir. Mais si tu me dis, non, peut-être en fait il est heureux, eh bien, tu viens de me dire qu'il n'y a plus de valeur, donc on ne peut pas discuter. Donc, face à quelqu'un qui te dit, ok, moi je pense qu'il n'y a pas de bien, de mal, chacun y pense ce qu'il veut, regarde entre parenthèses, aujourd'hui, le wokisme, c'est aussi de l'absurde. De dire qu'on n'est ni un homme, ni une femme, ni un perroquet, ni rien du tout, on peut être tout, on peut être rien. Tu ne peux pas discuter. Parce que quand tu viens et qu'il y a quelqu'un en face de toi qui te dit moi, je pense que je suis un renard, tu ne vas quand même pas débattre. Ce n'est pas possible.
Hop, Araf, question de Meïra.
Oui, moi, je voulais demander, Araf. On parle de le taken. Je n'ai pas compris. Le taken, ça veut dire qu'il faut faire entrer la présence divine dans chaque chose, dans ce monde. Mais le taken.
Oui, vous avez bien compris. Le taken, c'est ramener Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Comprenez-moi bien. Akadosh Baruch Hu a créé le monde Be'asara Ma'amarot. Okay, il a créé le monde par 10 paroles. Le problème, c'est que ces 10 paroles l'ont masqué. Le monde qu'il a créé fait écran au dévoilement divin. Et donc, on a besoin de ramener cette présence dans ce monde. Alors, ça va se faire tantôt à Seret HaMakot, à Seret HaDibrot, à Saranissim Shayou Bebet HaMikdash, ou alors Esser HaSfirot, pour ramener la présence divine dans ce monde. OK ?
Mais elle est là.
Elle est là, mais elle n'est pas dévoilée. Donc, il faut pouvoir l'apercevoir.
Araf, 3 minutes, 3 questions. Yocheved Bechavod.
Merci. Raph, j'ai cru comprendre en écoutant vos cours dans la durée que les personnalités que vous nous présentez ont une relation particulière avec le repos. En tout cas, ils ont une compréhension, une réflexion sur l'histoire et la génération dans laquelle ils s'inscrivent. Est-ce que nous savons quelle était la perception de Rizal de son époque?
Bah oui, comme tous les autres de son époque, il voit son époque comme étant le début de la Géoula.
Concrètement?
Concrètement, que c'est, d'après les calculs de la Kabbalah, le moment de Tikkun Chatzot de l'histoire. Donc, ça y est.
C'est-à-dire le retour en Eretz.
En l'occurrence, le retour en Eretz Israël, la construction d'une autonomie juive, et ainsi de suite.
Alors, je vais prendre 2 questions, Monsieur Ben Saïd.
Oui, Richard. Bonjour. Lors du retrait, justement, du Créateur, le monde n'est pas vide. La création n'est pas vide. Il y a une structure qui reste en place. Et cette structure demande à être remplie. En mathématiques, ça s'appelle une matrice. Est-ce que, et donc il y a des façons de remplir la matrice pour qu'elle soit opérationnelle, sinon elle ne marche pas. Mm-hmm. Donc en fait, le retrait, ce n'est pas la disparition de la lumière, c'est juste la disparition du remplissage. Mais il reste la structure.
Oui, bien sûr. Et il va la remplir avec la lumière divine. Seulement cette lumière, des fois, elle est trop importante et donc elle brise l'ustensile.
Araf, 1 minute, Rabbi Messant, dernière question. Monsieur Messant, votre micro est éteint. Ce sera...
S'il vous plaît. Kadou Araf, Bakasha, c'est au niveau de, vous dites, le tikkun, c'est réunifier la ligne droite, c'est-à-dire le cave et le sphère. Mais semble-t-il.
Ouais.
Après, vous parlez de Shaddai, qui est 3-14e, je n'ai pas bien compris, quoi, excusez-moi.
Ah, j'ai compris. On va faire très, très rapide.
Oui, voilà.
Le mot Shaddai en gématria, en valeur numérique, c'est
314, oui.
Voilà. Eh bien, c'est également la valeur numérique de pi, qui vient faire la relation entre la ligne droite et le cercle.
C'est ça.
Voilà.
Arrête, Todaraba, il est 10h.
Merci beaucoup.